السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أجمعين أن يسر لنا هذا اللقاء وهذا الجلوس من أجله، طلبا لمرضاته. فنسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم. أبخاف علوي الله سبحانه وتعالى قيسوس نبل قفت مساج محمد صلى الله عليه وسلم زاشمت خشب خير parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait qu'il nous facilite cette rencontre fraternelle, qu'il nous permette de nous asseoir à la recherche de sa grâce, de sa satisfaction et de son agrément. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer cette action de notre part et de nous récompenser. À une époque où les moyens de communication ont été facilités et les gens se visitent que très peu, ils utilisent le téléphone, les messages, les SMS, le WhatsApp et autres, mais peu sont ceux qui se déplacent et qui vont frapper à la porte de leurs frères, qui se déplacent et qui vont visiter la personne face à face pour prendre de ses nouvelles, s'enquérir de son état, pour écouter de lui le conseil et le lui prodiguer, alors que cela était l'habitude du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, l'habitude de ses nobles compagnons. C'est un acte qui est simple, mais la récompense est grandiose. À un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbin. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah le Très-Haut dit, j'ai rendu obligatoire mon amour pour ceux qui se sont aimés pour moi. Walil mutajalisina fiyya, pour ceux qui se sont assis pour moi. Subhanallah, tu aimes ton frère pour Allah, tu t'assis avec ton frère pour Allah, tu gagnes l'amour d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. وَلِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَلِلْمُتَبَادِرِينَ فِيَّ. Et pour ceux qui se sont visités pour moi, tu visites pour ton frère pour Allah, tu gagnes l'amour d'Allah. Et pour ceux qui dépensent pour moi. Quatre caractéristiques. Chacune de ces caractéristiques t'apporte l'amour d'Allah. Et est-ce qu'on se lève le matin? Est-ce qu'on se couche le soir, si ce n'est à la recherche de l'agrément d'Allah et de son amour? Est-ce que tu pries 5 fois par jour? Est-ce que tu adores Allah Azza wa Jalla et délaisses le haram, si ce n'est à la recherche de l'amour d'Allah? Voici une grande porte. Le fait de se visiter pour Allah et le fait de s'asseoir pour l'amour d'Allah. Après avoir remercié Allah Ta'ala, nous remercions tous ceux qui ont été à la cause et à l'origine de cette assise fraternelle, ceux qui ont permis cela, ceux qui ont organisé, ceux qui se sont fatigués pour cela, jazakumullahu khayra. Quant à notre premier sujet, il s'agit d'une risala qui à la base est une conférence du grand savant du siècle, Al-Allama, Al-Shir, Al-Mufassir, Al-Usuli, Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti, Rahimahullah Ta'ala. Al-Islam, Dinun Kamil. Et dès l'introduction de sa conférence, il mentionne la cause. Il mentionne la cause qui doit valoir la fierté de chaque Marocain qui entend cela. La cause de cette conférence qui a eu lieu au Masjid Nabawi est la question et la demande d'un roi. Qui est donc ce roi ? Rahimahullah Ta'ala. Écoutons le Cheikh lui-même dire « Alhamdulillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim » الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد هذه محاضرتنا ألقيتها في المسجد النبوي بطلب من ملك المغرب فطلب مني بعض إخواني تقييدها لنشرها فلبيت طلبه راديا من الله أن ينفع بها. Le Cheikh رحمه الله تعالى nous dit, voici une conférence que j'ai donnée à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à la demande du roi du Maroc. Par la suite, il m'a été demandé par certains de mes frères de la mettre à l'écrit. J'ai donc répondu à leur demande, espérant d'Allah le bénéfice. Il s'agit du grand-père du roi actuel, Hafidahullah Ta'ala, à savoir, comment se prénomme-t-il ? Mohammed Al-Khamis. Mohammed Al-Khamis qui est parti voir, subhanallah, Cheikh Al-Allama Mohammed Al-Amin Jinqidi, et lui a dit : je demande un sujet qui est l'exposé de la perfection de l'islam. Expose le fait que l'islam, c'est une religion complète. Et Al-Allama Shinqiti, rahimahullah ta'ala, a répondu à la demande du roi, rahimahullah, comment ? Avec une conférence au Masjid Nabawi. Et c'est devenu un livre qu'on lit, qu'on étudie. Et de cela, il y a une grande faïda à prendre. C'est la baraka de la question et la baraka du lien qu'il y a toujours en islam entre les dirigeants, les gouverneurs, les rois et les savants. Et cela montre l'amour qu'avait ce roi pour la religion de l'islam, sa préservation et sa propagation, rahimahullah ta'ala. Et combien de hadiths tu entends, la cause c'est un sahabi qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit par exemple, Ya Rasulallah, dullani ala amali, idha amiltuhu dakhaltul jannah, dakhaltul jannah. Combien de hadiths tu trouves dont le début est, ô messager d'Allah, informe-moi d'une œuvre si je l'applique, j'entrerai au paradis. Ya Rasulallah, ayyul amal ya habbu ila Allah ta'ala. Ô messager d'Allah, quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah? Ya Rasulallah, man naja. Ya Rasulallah, et ainsi de suite. Et sur cette sunna a marché le roi rahimahullah ta'ala en questionnant ses savants. Et lorsque tu vois beaucoup de livres de savants, na'am, tu trouves que la cause c'est une question des livres de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Le dernier thème qu'on traitera inshallah ta'ala samedi et dimanche, al-dawa. الجواب الكافي لمن سأل عن الداء الشافي. La réponse suffisante à celui qui a demandé le remède suffisant. C'est un homme qui a demandé au grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala une question. C'est devenu un livre incontournable. Ainsi on voit la baraka de la question lorsque la personne est sincère et elle veut le bien pour sa personne, pour la communauté. Pour l'islam et les musulmans, il se peut qu'Allah Azza wa Jal y mette une grande baraka. L'auteur commence en disant, قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ce verset de Sourate Al-Maïda, dont la traduction des sens approximative est aujourd'hui j'ai accompli pour vous, j'ai pas achevé sur vous, ou plutôt j'ai complété pour vous, votre religion, accomplis sur vous mon bienfait, et agréez comme religion pour vous l'islam. Ce verset a été révélé durant le pèlerinage d'adieu du prophète alayhi salatu wassalam. C'était un vendredi, en fin de journée, et c'était le jour de Arafat. C'était le jour de Arafat. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu combien de jours? Qui a la réponse? Comment est-ce que tu t'appelles, jeune homme? Nuh? Masha'Allah. Qui est Nuh? Un prophète? Le combienième? C'est le combienième des messagers envoyés aux gens de la terre? Tu es d'accord avec lui? Troisième, t'es d'accord avec eux deux? T'as la réponse? Toi, tu dis le deuxième, comme il a dit lui. Et vous, derrière, que dites-vous? Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Naam? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, les enfants de Tanger. Je vais ramener les enfants de Marrakech si vous ne trouvez pas la réponse pour vous aider. Vous avez un camarade qui vous répond. Je lui donne la parole. Comment est-ce que tu t'appelles, jeune homme? Moussa? Inch'Allah, vous n'avez que des prénoms prophètes ici? Allahumma barik. Moussa, dis-moi la réponse. Masha'Allah, c'est le premier messager envoyé aux gens de la terre. Vous avez compris? Moussa, tu viens me voir à la fin de la récompense, à la fin de la conférence. C'est un lapsus en rime qui te réjouit comme je peux. Revenons à notre thème. Ce verset est un verset arabe. Le prophète alayhi salat wa salam est mort précisément 81 nuits après la révélation de ce verset. Ça correspond à quoi? À 2 mois et combien de jours? 2 mois et 21 jours. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc vécu 2 mois et 21 jours après la révélation de ce grand verset. Le fait qu'Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a complété sa religion doit nous procurer un plaisir, une joie et un contentement grandiose. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, cela montre qu'Allah a complété sa religion, il n'y aura donc aucune imperfection, aucun manquement. Il n'y aura plus jamais besoin d'ajout. C'est pour cela que par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
on a complété la prophétie. Aussi, Allah Azza wa Jal a mentionné explicitement le fait qu'il est agréé pour nous l'islam comme religion. Et lorsqu'il y a l'agrément d'Allah dans une chose, il n'y a pas son courroux ni sa colère. Sachez également, wa al-iman, anna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbal dinan siwa. Allah n'accepte aucune autre religion en dehors de l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et quiconque recherche une autre religion en dehors de l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Il nous dit également, toujours dans sourate Ali Imran, inna ad-din 'inda Allah al-islam. La seule religion chez Allah est l'islam. Cette religion est complète, ses jugements ont été parfaitement exposés. Et par cela, Allah Azza wa Jal a complété sur nous son bienfait. Toute personne qui étudiera cet islam, comprendra cet islam, appliquera cet islam, il obtiendra le bien dans ce bas monde, dans son caractère mondain et religieux, ainsi que dans l'au-delà. À l'inverse, toute personne qui innovera dans la religion de l'islam fera des ajouts, des altérations, eh bien elle diminuera du bienfait sur sa personne. Et à hauteur de ce qu'il ajoutera en islam, il le dénaturera et s'égarera. Iyadan billah. L'auteur a basé sa conférence sur 10 points principaux. Il dit, ce sont des exemples pour exposer la complétude, la plénitude et la perfection de l'islam. Le premier point est tawhid. Le deuxième point est l'wa'd. Le premier point, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, c'est l'exhortation et l'avertissement. Le troisième point, c'est le farq bayn al-amal salih wa ghayri. La distinction ou la différence entre l'œuvre pieuse et l'œuvre qui ne l'est pas. Le quatrième point, at-tahkim ghayri shar'i karim, le fait de prendre pour base dans la législation autre que la révélation d'Allah. Le cinquième point, ahwal al-istima' bayna al-mujtama', la situation sociétale. Le sixième point, al-iqtisad, l'économie. Le septième point qui montre la perfection de l'islam, c'est les relations avec nos dirigeants. Le huitième point, comment pallier à la problématique de la faiblesse des musulmans. Le neuvième point, c'est sa continuité. Et le dixième point, irtilaf al-qulub, la divergence des cœurs au sein de la communauté. Après avoir mentionné ces 10 points, l'auteur les a détaillés. Et cette méthodologie et l'excellence dans la pédagogie et l'enseignement, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Il énumérait, puis il détaillait. Par exemple, dans le hadith, ijtanibu sab'a al-mubiqat, éloignez-vous des 7 péchés destructeurs. Puis il les énumère. Et dans ça, il y a 2 grandes leçons, entre autres. 2 utilités. La première, c'est ce qu'on appelle usulu at-tashwiq. C'est le fait de te faire désirer et avoir envie d'avoir l'information. Ça va te motiver. Ça va développer ta quête du savoir. Et deuxièmement, ça va permettre à l'élève, à l'étudiant, de mémoriser et de savoir lorsqu'il lui manque une information. Par exemple, comment est-ce que je t'appelle, jeune homme? Naam? J'ai mal entendu. Issam? Hafidakallah Issam. Allahumma barik. Combien y a-t-il de piliers en islam, Issam? Il y a combien de piliers? Il y a 5 piliers. Naam? C'est quoi le premier? Noah. Al-Shahadatan. C'est quoi le deuxième pilier? Comment est-ce que tu t'appelles? Isa. Allahu Akbar. Ça, c'est le premier. Ah, naam. Fadal. Reprends. Ça, c'est le premier, le deuxième pilier de l'islam. Naam. L'accomplissement de la prière. Un instant. Donc, l'accomplissement de la prière. Quel est le troisième pilier de l'islam? Az-zaka. Pourquoi vous commencez vos réponses alors que vous avez la réponse par c'est le professeur qui vous dit de commencer par ça? Hein? Le quatrième pilier. J'ai pas entendu. Lui, il a dit shahada, lui, il a dit salat, lui, il a dit zakat, pendant Ramadan, siyam Ramadan. C'est ça? Et le cinquième pilier, comment est-ce que tu t'appelles? Imran. Hajjul Bayt. Allahumma barik. Vous êtes inscrit à l'école ici? Qui est inscrit à l'école? Allahumma barik. Donc, en énumérant, comme vous avez vu, en énumérant, en partant d'un chiffre, tu sais qu'il y en a 5. Eh bien, s'il t'en manque un, tu vas le trouver. Et tu vas savoir lequel il te manque. N'est-ce pas? N'est-ce pas, nous? Naam. Barakallahu fikoum. Le premier point qui montre la perfection de l'islam, c'est le tawhid. Qu'est-ce que al-tawhid? Al-tawhid, ce terme-là, nous exprime la notion d'avoir comme conviction que la chose est unique dans son état. I'tiqad wahdaniyat al-shay. C'est ça al-tawhid, dans la langue arabe. Al-tawhid, c'est le fait d'avoir comme conviction qu'une chose est unique dans son état. Et al-tawhid en islam, c'est ifradullah bima yahtassu bih. C'est le fait d'avoir comme conviction qu'Allah est unique dans son état. Et quelles sont les spécificités d'Allah dans lesquelles nul ne s'associe à lui? Ces trois domaines, comme nous le mentionne l'auteur. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma'i wa sifat. C'est le fait d'avoir comme conviction ferme qu'Allah est unique dans ce qu'on appelle al-rububiyya. C'est quoi al-rububiyya? C'est ifradullah fi af'ali. C'est le fait d'avoir comme conviction qu'Allah est unique dans ses actes envers ses créatures. Comme étant le seul khaliq, le seul malik et le seul mudabbir. C'est le seul créateur, le seul propriétaire et le seul administrateur, gérant de l'univers. Naam. Tous les actes d'Allah Azza wa Jal qu'il fait envers nous, il les fait seul sans associer. Comment on appelle ce domaine de tawhid? Ar-Rububiyya. Naam. Celui qui reconnaît qu'Allah est le seul créateur, le seul maître, le seul propriétaire, qu'il donne la vie et la mort, qu'il guide et égare, élève et rabaisse, il fait, c'est lui qui enrichit et appauvrit. N'est-ce pas? Est-ce que ça suffit pour être musulman? Dites-moi les frères. Ça suffit pour être musulman? Non. C'est pour cela qu'il nous faut absolument ce qui découle de ce tawhid, qu'on appelle tawhid al-uluhiyya ou bien tawhid al-ibada. Celui qui reconnaît qu'Allah est le seul maître de l'univers et que tout ce qu'il nous a fait, il l'a fait seul sans l'associer. Il se doit, afin d'être en adéquation avec cette croyance première, venir avec un second point qui est unifier Allah d'un culte sincère. Dans le premier point, c'était les œuvres d'Allah envers nous. Le deuxième point, c'est nos œuvres à nous envers Allah. Lesquelles? L'adoration. Ifradullah bil ibada, unifier Allah d'un culte sincère à travers nos actes d'adoration, comme la prière, comme la zakat, comme le pèlerinage, comme l'amour, la crainte, l'espoir, le sacrifice, les vœux. C'est ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya. Et à cela revient le sens de la ilaha illallah. Moussa, que signifie la ilaha illallah? Détaille-moi cela. C'est vrai ce que tu as dit, mais je veux plus de détails. Pour être sûr qu'on s'est bien compris. Ashab 1. Ashab 1, qui l'est? Tu dois adorer Allah lui seul. Wallahi, c'est la bonne réponse. Nour, tu veux ajouter quelque chose? Répète. Nulle divinité? Non. Tu as rajouté un mot à la fin, il faut l'enlever. Voilà. Non, le mot que tu as rajouté, c'est le mot messager. Donc reprends et dis la bonne réponse. Aucune divinité digne d'être adorée que Allah, sauf Allah. Excellente réponse. Zakallah khair, barakallah khair. Pourquoi je suis venu ici alors que toi t'es là, non? Tu pouvais faire le cours. Barakallah khair. Inch'Allah, on viendra plus tard, c'est vous qui allez faire les cours. Ça, c'est les rijal du futur. Ça, c'est les rijal du futur. Allah m'a barik. Hein? Nous, on a besoin de vous. On a besoin d'imams. On a besoin d'enseignants. Hein? On a besoin de gens qui vont nous laver, qui vont prier sur nous, qui vont faire des du'a pour nous. Barakallah fikoum. Donc, la ilaha illallah signifie la ma'bouda bihaqin illallah, nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si c'est Allah. Le fait de reconnaître simplement tawhid al-rububiyya, l'auteur nous dit que ça ne suffit pas pour faire de toi un musulman. Lui, il cite des exemples qui montrent que Kuffar Quraysh reconnaissait, malgré quelques imperfections, tawhid al-rububiyya. Dans surat al-Zukhruf, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils répondront Allah. Dans surat Yunus, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Dis, qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Qui possède l'ouïe, la vue? Qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Et qui administre toute chose? Ils répondront, c'est Allah. فَقُولْ أَفَلَا تَتَّقُوا. Dis-leur, ne craignez donc vous pas. C'est-à-dire, si vous reconnaissez qu'Allah est le seul maître de l'univers, ne craignez-vous pas qu'il vous châtie pour le fait de lui donner des associés dans le culte, après avoir reconnu que c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous donne votre subsistance. Ne craignez-vous donc pas les méfaits de votre polythéisme? En somme, le fait de reconnaître qu'Allah est le seul maître du monde n'est pas suffisant pour être musulman. Il faut absolument venir avec ce qui découle de cela, à savoir adorer Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère. La ilaha illallah se compose de deux piliers. La ilaha, c'est al-nafi, c'est la négation. Illallah, c'est al-ithbat, l'affirmation. La négation, elle est totale, générale et absolue. Alors que l'affirmation, elle est spécifique et singulière. La ilaha, c'est nafi istihqaq al-ibada an kulli ma siwa Allah. Wal ithbat, ithbat istihqaq al-ibada lillah wahda. Quand tu dis la ilaha, tu renies, tu rejettes de manière absolue, totale et générale, le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Puis, après avoir fait la négation, le vidage, l'épuration, tu viens avec l'éducation et le remplissage en disant « Illallah ». Tu affirmes que seul Allah Azza wa Jal mérite l'adoration. Donc de comprendre cela, c'est indispensable. Cette parole, « La ilaha illallah », c'est ce pourquoi Allah nous a créés. C'est ce pourquoi il a envoyé tous les messagers. C'est ce pourquoi il a révélé l'ensemble des livres. Et le sens de « La ilaha illallah » n'a pas été apporté par les savants. Il a été mentionné par Allah Azza wa Jal lui-même dans le Coran. Il nous dit « Tabaraka wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wa yutalibu al-tahout » Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adorant en dehors d'Allah, comme dans Surat Al-Nahl. Il nous dit également وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوهُ. Dans Surat Al-Anbiya, nous n'avons pas envoyé de messager avant toi si ce n'est en lui révélant nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est moi, adorez-moi donc. Dans Surat Al-Baqara, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et quiconque mécroit ce qui adore en dehors d'Allah et croit en Allah se sera accroché à l'anse la plus solide. Tous ces versets nous montrent le sens de la ilaha illallah. Une partie négative, une partie affirmative. Ainsi se concrétise le tawhid. Il nous reste la troisième part du tawhid, à savoir tawhidullah fi asma'ihi wa sifatihi, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Et c'est le fait d'avoir comme conviction ferme qu'Allah a la perfection absolue. Allah Azza wa Jalla a la perfection absolue et nul ne lui est similaire. En deux mots, c'est ça. De manière plus détaillée, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit cela repose sur trois points. Premièrement, an-nafi, le fait de renier, qu'Allah Azza wa Jal ait une quelconque imperfection et une quelconque similitude avec ses créatures. Deuxièmement, al-ithbat, le fait d'affirmer qu'Allah Azza wa Jal a des noms, des attributs. Ce qu'il a dit sur lui-même, on le dit dans le Coran. Ce qu'il a dit sur lui-même, ce que le Prophète a dit sur son Seigneur dans la Sunna, on le dit. On lui affirme la perfection absolue. La troisième chose, c'est le fait de ne pas chercher le comment d'Allah Azza wa Jal. قَفْعُ الطَّمَعُ فِي إِدْرَاكِ كَيْفِيَةِ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَكُنُّ. Tu ne dois pas questionner sur le comment d'Allah, sur le comment de ses attributs. Tu ne dois pas chercher et conjecturer sur ce sujet-là. Allah Azza wa Jal a un comment. Nul ne le connaît si ce n'est lui. Pour connaître le comment d'une chose, il n'y a que trois moyens. Qui nous cite le premier moyen? Où sont vos pères? Noé. C'est sauvé, Noé. Moussa, il est où ton père? Voyez. Abou Moussa. Réponds à cette question. Attention, Moussa, il écoute. La question est, pour connaître le comment d'une chose, il n'y a que trois moyens. Nous ne connaissons pas le comment d'Allah, le comment des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que ces trois moyens-là, nous ne les avons pas. Ni deux, ni un. Quel est le premier moyen? Allahu a'lam. Noé. Qu'est-ce que tu penses des papas qui répondent sans lever la main, Noir? Noir, c'est toi le patron aujourd'hui, c'est toi, professeur. Profite. Ils vont rien te faire devant moi. Donc, c'est irrespectueux, il a dit Noir, de la plus belle manière. Allah mabarak, j'aurais pas dit si bien. Donc, Noir désigne un papa dans la salle et qu'il réponde à la question. Montre du doigt, indexe-le. Qui tu veux dans la salle, Noir? Lui? Derrière lui. Comme ça, il est loin de toi au cas où il y a un problème. Intelligent, Noir. Intelligent. Khan al-Karim. Ah, je le vois pas avec la chia blanche, Noir. Voyons. Seul Allah Azza wa Jal voit tout partout. Donc, avec la chia blanche, est-ce que tu as une réponse? Le voir. Bonne réponse. C'est de voir la chose. La première méthode, le premier moyen qui nous permettrait de connaître le comment d'une chose, c'est de l'avoir vue. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Allah? Non. Comme a dit le prophète, alayhi salat wa salam, sachez que personne ne verra Allah avant de mourir. Deuxième moyen de connaître le comment d'une chose. Qui est Issa? Désigne quelqu'un, Issa. Un adulte. Toujours, on vous pose des questions à vous, on vous donne des ordres. Là, c'est toi, Issa. N'importe lequel. Arabe, blanc, noir, qui tu veux. En vert. Moi, j'aurais pas osé, moi, étant à ton âge. Il est un peu imposant. Donc. Quelqu'un d'autre? Vite, vite. Je te donne le micro, mais quand même. Désigne quelqu'un d'autre. Vite. Mu'allim. Ah, c'est la vengeance. T'as vu, Mu'allim. Masha'Allah. Cheikh nous dit le fait d'avoir eu la description. Donc, elle khabar sali. L'information émanant d'un véridique qui nous décrit, nous on ne l'a pas vu, mais quelqu'un de véridique nous décrit la vision qu'il a eue, lui. Est-ce que nous, on nous a donné l'information? Est-ce que quelqu'un a vu Allah et nous a donné l'information à nous qui ne l'avons pas vu? Non plus. Il reste un seul moyen. Imran, désigne quelqu'un. Ça vous plaît, ça? Dis la couleur du qamis. Ça va, toi? Allahu alam, c'est la bonne réponse. Ça peut être que bon. La suite, à revoir. On interroge qui, les enfants? Les hommes. On interroge qui? Vous prenez trop de temps, les hommes. Noir, vite. Avec le qamis gris. C'est une réponse à Khana? Qui a une réponse? Il y a deux personnes qui ont une réponse. La première, c'était quoi? Avoir vu, on n'a pas vu. La deuxième, c'était avoir reçu l'information d'un véridique qui a vu. La troisième, Namahana. Ça n'est pas ça. Ça revient à l'information véridique. C'est ce qu'il vient de dire. Je vous donne la réponse, les frères. Donc, Mushahadatu mathilin la. le fait d'avoir vu un semblable. Toi, tu me dis, c'est quoi une Clio 5? D'accord? Tu me dis, j'ai une Clio 5. Je te dis, elle est comment? Tu me dis, comme celle de ton frère. Vous comprenez? Du fait d'avoir vu une chose similaire, eh bien, tu vas connaître le comment de la sienne. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, Laysa kamithli shay, wa huwa sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui soit similaire, et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Ainsi, avec ces trois points, vous devez avoir la certitude ferme qu'il est interdit de chercher, de conjecturer, d'interroger sur le comment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wadah, c'est clair les frères? Barakallahu fikum. En résumé, on doit affirmer tout ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé comme nom attribut ou lui a affirmé le prophète alayhi salatu wassalam. C'est le premier point. Deuxième point, on doit rejeter tout ce qu'Allah Azza wa Jal a rejeté à son sujet ou a rejeté à son sujet le prophète alayhi salatu wassalam. Il s'agit des défauts, des imperfections et de toute similitude avec ses créatures. Naam. Et on ne doit pas chercher le comment d'Allah Azza wa Jal. Quand on affirme, on ne dit pas que c'est comme les attributs des créatures. Quand on rejette, on ne dépasse pas les limites au point de rejeter ce qu'il a affirmé pour lui. Voici le juste milieu. Chez Ahli Sunnati wal Jama'a, en se basant sur le verset « Laysa kamithli shay », il n'y a rien qui lui soit similaire, ça c'est la négation. « Wa huwa sami'ul basir », ça c'est l'affirmation. Le deuxième point qui nous expose la perfection de l'islam, c'est el-wa'd. El-wa'd, c'est l'exhortation, c'est des convictions, des choses qui font bouger le cœur vers la crainte, l'éloigne de la colère de son Seigneur, en même temps vers l'espoir, le dirige vers l'agrément de son Seigneur, en délaissant le mal et en faisant le bien. Quel est le plus gros wa'd? Quel est le plus gros signal qui effraie le serviteur pour le faire délaisser les péchés et revenir à Allah? Le shir nous dit « وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَاعِظًا أَكْبَرْ وَلَا زَاجِرًا أَعْظَمْ مِنْ مَوْعِظَةِ الْمُرَاقَبَةِ وَالْعِلْمِ » كلام عظيم سبحان الله. Le shir nous dit, l'ensemble des savants sont d'accord pour dire qu'Allah n'a pas fait descendre de l'élévation vers la terre une exhortation plus grande, ni un avertissement plus effrayant ou plus colossal que l'exhortation de ressentir la surveillance d'Allah sur nous et la science. Al-Muraqaba, c'est le fait de ressentir la surveillance d'Allah. Et parmi les noms d'Allah, il y a quoi? Al-Raqib. Al-Raqib. Al-Muraqaba, c'est le plus haut degré du dîn. Ou plutôt, Al-Ihsan, c'est le plus haut degré du dîn. Dans le dîn, comme vous le savez tous, il y a trois martabas, n'est-ce pas? Il y a l'Islam, il y a l'Iman, et il y a l'Ihsan. C'est quoi l'Ihsan? أن تعبد الله كأنك تراه. Comment est-ce que tu t'appelles? Comment? ليث. نعم. Donc ليث nous dit أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. L'excellence consiste à ce que tu adores Allah comme si tu le voyais, c'est-à-dire avec la perfection de l'amour. Et si toi tu ne le vois pas, sache que lui te voit. C'est-à-dire avec la perfection de la crainte, tu ressens la surveillance d'Allah. Tu sens qu'il te voit, qu'il t'entend, qu'il te surveille. Et bien ça, c'est la plus grande exhortation que tu peux avoir dans ton cœur. Et c'est la plus grande cause qui éloigne des péchés et qui soigne la dépendance aux péchés, qu'Allah purifie nos cœurs et nos membres. Rien n'est caché à Allah Azza wa Jalla. Et les savants ont mentionné ce qu'on appelle un mathal, une parabole. Vous savez ce que c'est qu'une parabole? C'est établir une comparaison, naam, entre une chose matérielle et une chose immatérielle, ou bien une chose conceptuelle et une chose sensorielle. Naam. Rendre ce qui est abstrait dans la raison de l'individu matérialisé. Ainsi, il va visualiser la chose que tu lui dis et ça va se tracer dans sa mémoire. Il y a beaucoup de paraboles dans le Coran, toutes sont dans le Tawhid. L'auteur nous dit que les savants citaient une parabole pour rapprocher de notre esprit l'état dans lequel on devrait être. L'état dans lequel on devrait être face à Allah Azza wa Jal et sa surveillance. C'est un mathal. Il nous dit, لو فرضنا ملكا عفوا لو فرضنا ملكا سفاكا للدماء قتالا للرجال شديد البطش والنكال وسيافه قائم على رأسه والنطع مبسوط والسيف يقطر دما وحول ذلك الملك بناته والزوج وأزواجه أيخطر في بال أيخطر في البال أن يهم أحد من الحاضرين بريبة أو نيل حرام من بنات ذلك الملك. Écoutez cette description effrayante. Supposons, imaginons qu'il y ait un roi sanguinaire qui tue les hommes, qui a une vengeance terrible. Et à ses côtés, il y a ses gardes brandissant leurs épées juste à ta tête, l'épée levée. Et sur l'épée, tu vois des gouttes de sang, tellement il tue des gens. Vous visualisez la chose? Un roi sanguinaire, sans pitié, doté d'une grande vengeance. Autour, ses gardes, avec des épées. Il y a du sang sur l'épée, juste à côté de ta tête. Et autour de toi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les filles de ce roi-là, et il y a ses épouses. Est-ce que une personne aurait osé imaginer et penser à toucher l'une de ses filles, l'une de ses femmes? Ou non? Jamais. Alors que la situation est celle précédemment décrite. En plus de cela, le roi l'observe. Et bien, l'auteur nous dit, وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى. Et bien, sachez que la surveillance d'Allah, elle est encore plus grande que celle-ci. Tu dois avoir peur du plus profond de ton cœur, de la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens devant ce roi, comment est-ce qu'ils auraient été? Ils n'auraient même pas osé lever le regard. Ils n'auraient même pas osé penser à faire un mal et commettre une désobéissance. Allah Azza wa Jal nous surveille encore plus que cela. Il nous voit encore mieux que cela. Et sa science est encore plus vaste que celle-ci. Et son châtiment et sa menace est encore plus menaçante et dangereuse. Et son châtiment est encore plus douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a exposé la sagesse de notre création. C'est de voir lequel d'entre nous va le mieux œuvrer. Il nous dit tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui vous a créé, ou plutôt celui qui a créé la mort et la vie, pour vous éprouver et voir lequel d'entre vous œuvrera au mieux. Donc, une des sagesses de la création, c'est l'épreuve. Et voir lequel d'entre nous va le mieux œuvrer, c'est-à-dire être le plus sincère dans ses œuvres et le plus en conformité avec la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Et dans surat Hud, « وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. » C'est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours
Son trône était sur l'eau pour vous éprouver et voir lequel d'entre vous œuvrera au mieux. Et méditez cela, il n'a pas dit œuvrera le plus. Il a dit œuvrera au mieux. Donc, si on ajoute à cela les versets wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dans Dhariyat, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et dans Talaq, Allah الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et dans la traduction de l'autre verset, Allah est celui qui a créé sept cieux, pareillement pour les terres, l'ordre descend entre les deux, afin que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent et qu'il embrasse de sa science toute chose. Et là, la question, la grande question, quelle est la sagesse de notre création? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous a créés? Ça, c'est une question très importante. Certains marchent sur la terre d'Allah et vivent dans les bienfaits d'Allah. Ils atteignent 50 ans, 60 ans, 70 ans même. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre d'Allah. Ils errent sur la terre. Naam. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Alors que nous, nos enfants, savent pourquoi Allah Azza wa Jalla les a créés. Ils n'ont même pas attendu 10 années de leur vie. Saif, pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a créés? Limada khalaqana Allah? Pour l'adorer. Jazakallahu khayr. Moussa, pourquoi Allah nous a créés? Pour l'adorer. Isa, pourquoi Allah nous a créés? Pour l'adorer. Nour, pourquoi Allah nous a créés? Comment est-ce que tu t'appelles? Zakaria, pourquoi Allah nous a créés? Pour l'adorer. Regardez nos enfants, hafidahumullahu ta'ala wa faqahumullah. Ils ont plus de science que certains qui ont atteint 70 ans de leur vie. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont été créés. Allah Azza wa Jalla t'a créé pour deux grandes sagesses. La première, pour que tu le connaisses. Et quand tu vas le connaître, la deuxième, pour que tu l'adores. Dans Surat al-Talaq, pour que tu connaisses sa perfection. Dans Surat al-Dhariyat, pour que tu l'adores seul d'un culte sincère avec le tawhid. Pour l'adorer avec le tawhid. Pourquoi Moussa? Pour l'adorer avec le tawhid. Pour l'adorer avec le tawhid. C'est ça la sagesse de notre création. Barakallahu fikum. À partir du moment où cela est le but de la création, on doit tous savoir qu'est-ce que l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Dans la langue arabe, l'ibad, les Arabes disent tariqul mu'abbad, c'est ce qui est rabaissé. C'est ce qui est rabaissé. C'est pour ça qu'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala lui décrit l'adoration ou la définit en disant rayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutban. L'adoration, c'est le paroxysme de l'amour d'Allah, ainsi que le fait de se rabaisser à lui. C'est ça l'adoration. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, au début de son livre Al-Ubudiyya, dit ya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal al-zahirati wal batina. L'adoration, c'est un nom général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte, que ce soit apparent ou caché. L'adoration, c'est un nom général. C'est pas que la salat, l'adoration. C'est pas que la zakat. Non. C'est un nom général. Ça englobe tout ce qu'Allah aime et agrée. Il y a des actes apparents comme la prière, la zakat, le hajj. Des actes intérieurs comme l'amour, la crainte, l'espoir. Ça peut être avec le corps comme la prière. Ça peut être pécunier comme la zakat, le hajj. Ça peut englober les deux. Naam. Ça peut être une adoration qui touche ta personne comme la salat. Ça peut se répercuter sur autrui comme un sadaqa. Donc l'adoration, c'est général, ça englobe beaucoup de choses. L'adoration, c'est le droit d'Allah sur les serviteurs. Celui qui donne ça à Allah, c'est un muwahhid. C'est un monothéiste. Celui qui prend l'adoration, il donne ça à un autre qu'Allah. C'est un quoi? C'est un mushrik. C'est un polythéiste. C'est pas un monothéiste. Il y a une seule religion monothéiste. C'est quoi? C'est l'islam. C'est la religion qui est complète et parfaite. Barakallahu fikum. Le troisième point qui nous montre la
plénitude de l'islam et sa perfection, c'est le fait qu'on n'adore pas Allah n'importe comment. Nous, on est les serviteurs d'Allah, n'est-ce pas? Est-ce que le serviteur, il fait comme il veut, ou il fait comme le maître lui ordonne? Comme le maître lui ordonne. C'est qui notre maître? C'est qui Al-Mawla? C'est qui le Wali? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'ma Al-Mawla wa ni'ma Al-Nasir. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik, Al-Haq, Al-Mubin, pour qu'on l'adore, nous a envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et il lui a révélé le Coran. Le prophète alayhi salatu wa salam nous est venu avec deux choses. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. Même ça, vous répondez? MashaAllah. Allah mabarak. Donc, il est celui qui a envoyé son messager avec la bonne voie et la religion de vérité. La bonne voie, c'est quoi? La bonne voie, c'est... Tu vas pas répondre à ça quand même. T'as la réponse? Toi qui tourne la tête, toi, t'as la réponse? C'est quoi le Huda? Le Huda, c'est l'ilm al-nafi'. S'il avait répondu là, j'abandonne. Hein? Le Huda, c'est l'ilm al-nafi'. C'est la science bénéfique, utile et profitable. Et din al-haq, c'est l'amal salih. C'est les œuvres pieuses. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous est venu. Et a dit, ya ibad Allah, au serviteur d'Allah, délaissez le politisme. Et rentrez sur le chemin d'Allah. Adorez qu'Allah, mais que comme je vais vous l'enseigner. Men amila amalan, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha. Quiconque apporte une nouveauté dans notre ordre, c'est-à-dire en islam, alors qu'elle n'en fait pas partie, sera rejetée. Tu dois adorer qu'Allah, mais pas n'importe comment, que comme le prophète alayhi salatu wa salam nous l'a enseigné. Si tu réunis ces deux conditions, et que tu as une aqida sahiha, salima, que tu as une bonne croyance, tu crois en Allah, tu crois aux anges, tu crois aux livres révélés, aux envoyés, aux messagers, tu crois en la, tu crois au jour dernier, tu crois en la prédestination, hein? Eh bien, tu auras ton socle, tes fondations. Dès lors que tu as les fondations et que tu as les deux conditions réunies, c'est ce qu'on appelle un amal salih, une œuvre pieuse. Allah l'accepte. Ilayhi yarfa'ul amal salih wal ilayhi yarfa'ul kalim at-tayyib wal amal salih yarfa'u. Vers lui remonte, ou plutôt vers lui remonte la bonne parole. Et quant à la bonne œuvre, il l'élève. Et quant à la bonne œuvre, il l'élève. Donc celui qui veut qu'Allah Azzawajal accepte ses œuvres, il doit respecter ce principe. Retenez bien les frères, trois principes. Le premier, c'est la sincérité. Ala lillahi dinul khalis. N'est-ce pas Allah qui appartient à la religion pure, c'est-à-dire la ilaha illallah, comme on trouve dans le tafsir. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا. Il leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère dans Sourate Al-Bayyina. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Allah le Très-Haut dit, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِ تَرَكْتُ وَشِرْكَ. Quiconque fait une œuvre en m'y assignant un associé, je l'abandonne lui et son associé. Ou lui et son association. Donc le but, ce n'est pas d'œuvrer pour œuvrer, c'est d'œuvrer pour qu'Allah Azzawajal agrée et accepte. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, le suivi du prophète alayhi salatu wa salam. Et Allah Azzawajal a réuni ces deux conditions dans plusieurs versets du Coran, notamment. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et quiconque espère la rencontre avec son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe personne dans le culte avec son Seigneur. Et la troisième condition, c'est avoir une bonne croyance, être musulman. Car celui qui n'est pas musulman, Allah Azza wa Jalla n'accepte pas de lui. Le quatrième point qui montre la perfection de l'islam, c'est que dans l'islam, Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran. Et dans le Coran, tu as la réponse à toutes tes questions, à toutes tes interrogations. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, son âme n'a pas été récupérée, si ce n'est après qu'il ait tout transmis. Un jour, des gens sont venus voir le prophète, sont venus voir Salman al-Farisi. Et ils lui ont dit, vous, votre prophète vous a tout enseigné, même comment vous comporter à la selle, aux toilettes. Il a répondu, adieu, bien sûr. Il a voulu le dénigrer, le prendre en raillerie et en dérision. Mais Salman al-Farisi rétorqua, il nous a dit de ne pas nous diriger en direction de la Qibla. Il nous a interdit de nous essuyer avec moins de trois prières et lui disait telle et telle chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas laissé un oiseau voler sans nous tirer de cela une science. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la législation d'Allah, elle est parfaite, elle est complète. Et les lois révélées sont des lois parfaites qui régissent pleinement tout ce dont nous avons besoin, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Dans Sourate Al-An'am, Allah Azza wa Jalla nous dit: Alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Dans le verset de Sourate Al-Ma'ida, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Afa hukm al-jahiliyyati yabghun. Dans Sourate Al-An'am, أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Ainsi, le meilleur des juges et la base à laquelle on doit revenir pour juger entre nous, c'est la révélation d'Allah Azza wa Jalla, qui comprend deux choses. Al-Qur'an, qui est la parole d'Allah Azza wa Jalla, et Al-Sunnah, qui est la deuxième révélation. Et Jibril alayhi salam descendait avec la Sunnah comme il descendait avec le Coran. Il y a une secte qu'on appelle le Coraniyou, qui tend à se répandre, qui prétend faussement et injustement que l'islam c'est le Coran et qu'il n'y a pas d'autre révélation. Vous avez compris? Ils disent que dans la sunna, on n'accepte que très peu de hadith et qu'on n'accepte que le Coran. Ça, c'est pas l'islam. Celui qui croit cela, qui pense cela, il n'est pas musulman. Et il ne croit même pas au Coran. Celui qui pense qu'on peut se passer de la sunna et du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quand il dit que c'est un Qur'ani, c'est un menteur. Parce que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a révélé: Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés. Dans le tafsir, tu trouves El Quran wa Sunnah. El Quran wa Sunnah. Dans le tafsir d'Ibn Jarir et autres. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla nous dit: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Et suivez Allah et suivez le messager et ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Donc, celui qui dit on peut se passer du prophète Mohammed pour adorer Allah et trouver le chemin qui mène à Allah, il n'est pas Qur'ani, il n'est pas musulman. Naam, mais il ne fait pas partie des adeptes de l'islam. Wal'iyadu billah. Le cinquième point, c'est la situation sociétale. C'est-à-dire comment est-ce qu'on gère la société? Est-ce qu'on est tous égaux au même rang? Ou est-ce qu'il y a différents rangs dans la société? Et chacun doit s'acquitter de ses devoirs envers l'autre? Et tout le monde doit être respecté? L'islam est venu pour parfaitement organiser la cité et la société. Allah Azza wa Jalla a donné un ordre au gouverneur. Et a dit, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Il a donné l'ordre au prophète, alayhi salatu wa salam, d'abaisser l'aile de l'humilité à ceux qui te suivent parmi les croyants. Donc la relation, elle doit être basée sur la rahma, sur la miséricorde. Et alhamdoulilah, c'est ce qu'on témoigne ici. Dans sourate Ali Imran, Allah nous dit, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Et c'est par quelque miséricorde de notre part que tu as été si doux envers eux. Et si tu avais été dur ou rude, au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. Ça, c'est pour les dirigeants. Quant aux dirigeants, quant à ceux qui sont gouvernés, c'est-à-dire nous, le peuple, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné d'obéir au gouverneur et de ne jamais lui disputer le pouvoir, de ne jamais parler sur lui en mal, de ne jamais se moquer, de ne jamais le dénigrer et de ne jamais penser qu'on est au même niveau dans la responsabilité et dans le pouvoir. Allah Azza wa Jalla nous dit « Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul » Wa ulil amri minkum. Dans sourate Nisa, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Ainsi, il est obligatoire d'obéir au roi, de l'écouter. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit Isma' wa ati'. Écoute et obéis. Il a dit Alaykum bis sam'i wa ta'a. Prenez soin d'écouter et d'obéir. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah yarda lakum thalathan wa akrahu lakum thalathan yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man walla Allahu amrakum. Certes Allah agrée pour vous trois choses, il déteste pour vous trois choses. Il agrée pour vous que vous adorez, que vous adoriez Allah seul d'un culte sincère sans jamais rien lui associer et que vous suiviez tous ensemble et que vous accrochiez tous ensemble à l'anse d'Allah. Sans jamais vous cuiser. Et que vous soyez sincères envers ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Ce qu'Allah a mis à votre tête. Donc ce point-là, il est très important. Ça, c'est à grande échelle. Ensuite, chaque personne dans son foyer a un petit royaume. Il y a l'échelle, à l'échelle du pays, et il y a l'échelle individuelle. Allah Azza wa Jalla nous a aussi appris comment nous comporter à l'intérieur. Il nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, fa inna Allah ghafurur rahim. À l'échelle entre nous. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Et ainsi de suite. À chaque échelle, Allah Azza wa Jalla nous a dit comment nous comporter. Avec les femmes, avec les enfants. Na'am. En éduquant, en patientant, en excusant. Chacun d'entre nous, entre nous, Allah nous ordonne quoi? La justice, la bienfaisance, de donner aux proches. Il nous interdit la turpitude, le blâmable, la transgression. Naam. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, « Alladhina amanu tanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithm wa la tajassasu. » Ô vous qui avez cru, éloignez-vous de beaucoup de soupçons, une partie des soupçons est péché.
ne vous espionnez pas, ne médisez pas les uns des autres. Allah Azza wa Jal nous montre comment est-ce qu'on se comporte les uns envers les autres. Nous interdit de nous moquer les uns des autres. Na'am. Allah nous ordonne de nous entraider dans le bien et la piété. Donc Allah Azza wa Jal nous a montré comment nous comporter dans la société. Na'am. Voici ce qu'Allah Azza wa Jal nous a facilité de prendre du livre. Ça représente, maintenant on a dépassé, on va dire la moitié du livre. On va s'arrêter sur cela. Allah Azza wa Jal nous facilite une autre assise pour le finir en reprenant de l'iqtisad, de l'économie, la recherche de la subsistance, le fait d'aller vers le halal et de connaître les causes d'enrichissement et le fait de s'éloigner du haram et de connaître les mada, tout ce que ça apporte comme nuisance dans la société et que ça enlève comme baraka dans les foyers. On demande à Allah Azza wa Jal d'accepter de nous cette heure passée assis pour lui. On lui demande la sincérité et l'acceptation des œuvres. Et le prochain cours sera, Inch'Allah Ta'ala, demain, à quelle heure ? Entre le Maghrib et l'Isha. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alameen.